du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour la dernière de notre émission Grand Large avec laquelle nous sommes partis chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival OFF d'Avignon 2018. Aujourd'hui, nous vous proposons de tourner les pages de deux drames historiques avec en notre compagnie Guillaume Gay, Thoiry Traki et Tepa Trouarou du spectacle Les Champignons de Paris au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Et Corentin Squara pour L'Herbe de l'Oubli au Théâtre des Dons sera également avec nous. Et Greg Germain nous rejoindra pour nous présenter en direct sa dernière quotidienne poétique. Alors, Les Champignons de Paris, un spectacle d'utilité publique qui revient sur les 193 tirs aériens et souterrains qui ont été réalisés par la France en Polynésie française entre 1966 et 1996. Avec nous, les trois comédiens du spectacle. Guillaume Gay, bonjour.
Bonjour.
Vos deux compatriotes nous rejoindront après. Comment est-ce que vous avez découvert ce texte d'Émilie Guénaëdig? Si je le prononce bien.
Émilie Guénaëdig.
Guénaëdig, voilà. Qui a obtenu le prix Beaumarchais en 2016 pour ce texte.
Alors, on l'a pas découvert, mais on a, comment dire, Émilie a participé à la création. C'est-à-dire que une fois qu'on a eu l'idée, effectivement, de s'intéresser à ce sujet, qu'on a eu l'envie de s'intéresser à ce sujet, on a réuni une équipe. D'abord, François et moi, François Boursier, le metteur en scène du spectacle. On a d'abord organisé un casting. L'idée, c'était de savoir qui pouvait porter cette histoire, enfin comment on pouvait la porter plutôt. On avait encore des interrogations par rapport au genre. Est-ce que ça serait... On avait l'idée d'un trio. Maintenant, est-ce que ça serait deux femmes, un homme, deux hommes, une femme, trois hommes. On ne savait pas encore trop, même si... Au fur et à mesure de l'avancée de nos recherches, on se rendait compte que c'était quand même une histoire d'hommes, tout ça. Enfin, même si, évidemment, les femmes ont eu un rôle important aussi, reste qu'au niveau des chantiers, au niveau des prises de décision au sein des appareils politiques, militaires, etc., c'était des hommes qui étaient en première ligne. Et on voit le résultat. Et donc, du coup, assez rapidement, en fait, de par la distribution qui s'imposait à nous et de par cette histoire, on s'est rendu compte que ça devait être porté par trois comédiens et puis que des personnages féminins pouvaient apparaître à la fois à travers la vidéo avec laquelle on est beaucoup en interaction et puis aussi à travers l'interprétation de Thoiry Traki.
Corentin Squara, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes comédien dans L'Herbe de l'Oubli, un spectacle qui nous fait revenir sur une énorme catastrophe technologique et humaine, l'explosion de 1986 à Tchernobyl. Vous voulez vraiment, à travers ce spectacle, mettre en lumière les dommages collatéraux de cette catastrophe, parce qu'il y a un vrai travail d'enquête.
Absolument. Donc, effectivement, on s'est rendu en Biélorussie, en Ukraine, dans trois voyages. On est allé à Tchernobyl, on est allé sur le site, à Pripyat, la ville abandonnée. On est allé à la rencontre des gens qui vivent dans la zone, en dehors de la zone, en Biélorussie. Donc, il y a des villages qui devraient être évacués et qui ne le sont pas. C'est un peu le cas en Ukraine aussi. Et donc, on est allé voir comment on vit là-bas, comment on vit avec les restes de la radioactivité, comment on vit dans des territoires qui sont pollués, tout simplement, qui sont pollués de radioactivité. Donc, comment on vit avec tout ça? Et 32 ans après, parce qu'aujourd'hui, la catastrophe de Tchernobyl, c'est un peu derrière nous, derrière tout le monde. Il y a Fukushima, malheureusement, qui a pris le pas, hein, si on peut dire. Et puis même, c'est resté en arrière. Ils viennent de poser l'arche au-dessus pour rendre vraiment le deuxième sarcophage étanche, etc. Bon. Donc tout ça est un peu, semble en tout cas de loin sous contrôle, alors qu'en fait, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça pour les populations locales. Et donc on s'est rendu là-bas pour rencontrer ces gens. Et le spectacle, donc évidemment, est le résultat de ces rencontres. Voilà.
Guillaume Gay, comment résonne ce texte une vingtaine d'années plus tard? Parce que vous faites un petit peu ce qu'on pourrait appeler du théâtre citoyen.
Oui, c'est ça. C'était l'idée, c'était aussi de relayer la parole des témoins. On parlait du travail d'écriture d'Émilie tout à l'heure. Donc, dès qu'elle a rejoint l'équipe, son travail était effectivement de rassembler en fait toutes les témoignages, les archives. On a beaucoup travaillé avec Bruno Barillot, qui nous a quittés l'année dernière et qui nous manque beaucoup, mais qui a énormément participé au spectacle, au sens où il nous a donné beaucoup de matière. Il a ouvert, il était délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires. Il a consacré 30 ans de sa vie sur le sujet. Et donc, du coup, il nous a donné aussi beaucoup de documents déclassifiés, secret défense. Et puis, on est allé à la recherche de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, voilà, une fois collecté, en fait, tous ces éléments, eh bien, on a pu structurer, en fait, un propos. Et puis, vous me parliez de l'accueil qui est réservé au spectacle, ou en tout cas à ces paroles. Je dirais qu'en Polynésie, il y a vraiment une fonction de libération de la parole, de devoir de mémoire, bien sûr, mais au-delà de ça, de libération de la parole. C'est-à-dire que pendant très, très, très longtemps, il y a une véritable omerta hein, sur le sujet, des pressions immenses et donc et puis un sentiment très mêlé, un sentiment à la fois de colère certes, mais aussi de honte, de culpabilité d'avoir été embarqué dans cette histoire et d'avoir été d'une certaine manière acheté parce que la manne financière était énorme. Donc ce sentiment mêlé fait que certains ont envie de mettre la poussière sous le tapis, d'autres ont besoin de s'exprimer. Et je dirais aussi que la venue du président Hollande en 2016, qui a pour la première fois reconnu que les essais n'avaient pas été propres et qu'effectivement il y avait eu des dommages collatéraux énormes sur la population d'un point de vue sanitaire, environnemental, au niveau de l'organisation même de la société polynésienne, fait que ça a libéré quelque chose. C'est-à-dire que, alors, on n'en est pas. Il y a eu une première reconnaissance. Je pense que le peuple polynésien a vraiment besoin d'une demande de pardon, d'une certaine manière, et on n'en est pas là, mais voilà, mais il y a une certaine forme de reconnaissance qui fait que d'un seul coup, on s'autorise à parler, à extérioriser cette douleur, parce qu'on sent que c'est encore inscrit dans les chairs. Donc, après chacun de nos spectacles, il y a, c'est pas timé, mais il y a une heure et demie, deux heures de débat, chacun prend la parole, s'exprime, témoigne, souvent aussi en famille, c'est-à-dire que c'est l'occasion aussi par l'intermédiaire du spectacle de pouvoir partager avec ses enfants toutes ces expériences et puis c'est des douleurs qui s'expriment, le théâtre fait catharsie et il y a plein d'émotions qui ressortent et qui du coup permettent peut-être de faire le deuil de tout ça.
Corentin, comment a réagi la population quand vous êtes venu leur présenter votre projet, cette envie de porter ce qui se passe chez eux sur une scène de théâtre ?
C'est un peu délicat. On s'est rendu en Biélorussie la première fois. On s'est rendu notamment pour aller à la rencontre d'une compagnie de théâtre là-bas. Une compagnie de théâtre dans une petite ville qui s'appelle Mogilev, qui est à une grosse centaine de kilomètres de Minsk. Et on a fait du théâtre d'abord. Hein. Il fait aussi de la marionnette, comme nous. Donc voilà. Et puis, après un moment, on leur a expliqué que on était là pour faire du théâtre, mais on avait aussi dans l'idée d'échanger un petit peu autour de ces thématiques-là. Pas qu'avec eux, évidemment, mais aussi avec eux. Et on redoutait un peu ce moment. Et puis, en fait, ça s'est fait super simplement. Et puis, en fait, chacun avait une petite histoire. Il y en avait qui avaient été en sanatorium en Allemagne à l'époque, d'autres à Cuba, qui étaient partis, donc pour des raisons sanitaires. S'aérer un petit peu, hein, s'oxygéner, manger des aliments moins contaminés pendant certaines périodes, et qui avaient envie de raconter ça, qui avaient envie de raconter aussi la maison de leur grand-mère qui avait été enterrée. En fait, chacun avait une petite histoire en lien avec cette tragédie, quoi. Et donc ça s'est fait assez simplement. Pour les autres personnes, il y a des gens à qui on en parle directement, hein, donc en expliquant ce qu'on fait. Il y en a avec qui ça se passe pas comme ça, avec qui simplement on parle de cette histoire et puis on leur explique qu'on veut en faire un projet théâtral et voilà. Et en général, ils sont quand même plutôt contents qu'on en parle parce que c'est un peu les oubliés de l'histoire, vraiment, parce que cette histoire a aussi été un peu mise sous le tapis. Là aussi, en Biélorussie, il y a un petit peu, je sais pas si c'est de la honte parce que ils n'ont rien à voir, c'est même pas leur pays, c'est rien du tout. Enfin, c'est les voisins d'à côté qu'on fait péter la centrale et puis le nuage, il est passé chez eux, il les a complètement irradié leur terre et donc ils boivent du lait contaminé, ils mangent de la viande contaminée, encore maintenant, hein, des légumes contaminés, ça dépend les endroits. Et donc, l'État aussi là-bas, c'est quand même un pays pour le moins étonnant. C'est le pays le moins visité d'Europe. La police secrète s'appelle encore le KGB. Enfin, c'est quand même bon, un petit peu original. Ça fait, je crois que le pré-président actuel, il est en place depuis 91 ou quelque chose comme ça. Donc, enfin bon. Et donc, il y a aussi une volonté là-bas de dire, bon, allez, c'est fini, tout va très bien. Et puis, en plus, bon, ils n'avaient pas de centrale nucléaire à l'époque. C'est le comble du comble. C'est que, donc, ils ont été complètement irradiés alors qu'ils n'avaient rien du tout. Et maintenant, ils sont en train d'en construire une. C'est là que ça touche voilà, au très grand.
Juste pour revenir, parce que vous en parliez sur l'aspect un peu plus artistique du spectacle, il y a un grand travail autour de la marionnette qui apporte à la fois une dimension monstrueuse et effrayante, mais aussi beaucoup de compassion et de douceur. C'est un travail d'Héloïse Maire.
C'est un travail
ou collectif.
C'est-à-dire que donc en fait une des spécificités de la compagnie, c'est de mélanger acteurs et marionnettes. Donc la compagnie Point Zéro, donc basée à Bruxelles, et donc Jean-Michel Daube, directeur artistique, metteur en scène de ce spectacle, a intégré le travail de marionnettes il y a déjà très longtemps. Et en l'occurrence, ici, les marionnettes sont réalisées par Ségolène Denis, donc, qui est une sculpteur, c'est comme ça qu'elle se décrit, hein, et donc qui crée beaucoup d'œuvres plastiques, et en l'occurrence également des marionnettes pour ce spectacle. C'était la première collaboration de Point Zéro avec Ségolène Denis. Et je pense qu'on peut parler de réussite, puisque les marionnettes, effectivement, sont étranges, amènent cette étrangeté. Et je pense aussi beaucoup de poésie, en tout cas, c'est ce qui nous revient souvent. Ouais.
Alors, pour parler un petit peu plus de la dimension politique, je vous propose d'écouter un extrait du général de Gaulle.
Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend en étant le siège de cette organisation qui doit assurer la paix à coup sûr à notre ensemble français. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix.
Guillaume Gay, il y a un travail d'information qui n'a pas été fait du point de vue des politiques.
À l'époque, vous voulez dire il y a eu un travail d'information, il y a eu un travail de désinformation surtout. C'est très étrange d'entendre cet extrait du général de Gaulle sans être sur le plateau, parce que j'ai l'impression de... Moi, je ne suis pas habillé, je ne suis pas prêt, il faut qu'on y aille, il faut qu'on enchaîne. C'est effectivement un extrait du spectacle. Voilà, ça raconte tout. Hein. C'est-à-dire que... D'ailleurs, le spectacle démarre par un film qu'on pourrait appeler un film de propagande, c'est-à-dire en tout cas un petit film qui dure 2-3 minutes et qui raconte à quel point tout va bien. Le premier essai nucléaire a été fait et tout va bien. Tout va bien pour les populations d'un point de vue sanitaire, c'est même l'euphorie. Les touristes sont toujours là, etc. etc. Donc il y avait effectivement, et puis surtout sur un ton extrêmement condescendant, arrogant. Donc on est au cœur même de l'impérialisme français, hein, dans ces territoires d'outre-mer, dans ces contrées d'outre-mer, et effectivement avec une désinformation totale et avec un message passé aux populations d'innocuité totale, mais totale, de ces bombes, parce qu'on parle d'essais nucléaires, mais bon, voilà, c'est une litote, hein, ce sont bien des bombes qui ont explosé, il y a eu 46 tirs aériens, atmosphériques. Ça correspond, pour donner un chiffre, parce que voilà, juste pour se repérer, c'est 860 fois la bombe Hiroshima d'un point de vue puissance, et des populations les plus proches qui étaient à 300 km. Donc tu parlais tout à l'heure effectivement de ce nuage de Tchernobyl qui passe au-dessus de la Biélorussie et qui irradie tout. Et ben voilà, je crois qu'on était victime de désinformation, puisqu'on a été jusqu'à couper le courant dans ce théâtre pour qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé en Polynésie. Non, on parlait effectivement de... Oui, c'est ça, de cette désinformation au moment du lancement des essais. Je crois qu'elle a duré pendant très très longtemps, hein, puisque je le disais tout à l'heure, il a fallu attendre 2016 pour que enfin l'État français reconnaisse que les essais n'avaient pas été propres, et tout le discours qui a été mené, c'était qui a été conduit, c'était de dire effectivement qu'il y avait une totale innocuité. Alors malgré nombre d'incidents qu'on relate d'ailleurs dans le spectacle, et notamment après des essais, des mouvements de vent ou de pluie qui ont du coup entraîné des retombées radioactives très très fortes, et puis des populations évidemment qui ont été totalement irradiées, alors que des politiques dont le général de Gaulle devait rester sur l'île de Mangareva, évidemment, ils ont vite pris la fuite. Donc voilà, donc il y avait un certain nombre d'indices au fur et à mesure, mais la résistance qui s'est mise en place a été quand même relativement minime. On en parle aussi beaucoup dans le spectacle, à travers Théaliki, à travers Henri Hulot, qui ont été des figures en fait emblématiques de l'époque et qui ont effectivement très vite compris qu'on était, on était aspirés en fait par le mensonge, par un énorme mensonge d'État. Mais voilà, la prise de conscience a été vraiment lente. Je crois que quand il y a eu un stop des essais nucléaires sous François Mitterrand et une reprise après sous Jacques Chirac, là vraiment la population était complètement solidaire. Il y a eu des incendies dans Papeete, enfin il y a eu des mouvements de révolte extrêmement forts. Là je crois qu'il y avait une prise de conscience aidée aussi par les pays environnants comme la Nouvelle-Zélande qui est énormément intervenu, l'Australie à travers sa diplomatie, à travers Greenpeace, à travers un certain nombre d'organisations qui ont permis, je crois, de lever le voile sur ce qui se passait et puis de faire en sorte que la population puisse elle aussi s'insurger contre ces faits.
Corentin, donc évidemment on ne change pas le passé, cependant il pourrait quand même y avoir une meilleure sensibilisation des pouvoirs publics sur les dangers. Vous parliez justement de l'alimentation, ils sont beaucoup encore à cultiver des fruits, des légumes dans leur jardin et à continuer à les manger au quotidien.
Mais en fait ils n'ont pas trop le choix. En fait ce qui se passe c'est qu'en Biélorussie il y a pour certaines personnes il y a une grande misère économique, c'est pas évident. Il y a un personnage dans le spectacle, enfin on n'a même pas osé le dire tellement c'est, mais elle gagne 50 euros par mois en travaillant 6 jours semaine sans congé, sans rien, 8h à 19h, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? 50 euros par mois, on peut m'expliquer que le pain est moins cher en Biélorussie, mais à un moment bon quoi. Et donc les champignons de la forêt, ils les mangent, et puis ils ont toujours mangé. Et donc pourquoi ils s'arrêteraient? Alors ils sont arrêtés un petit peu, ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, puis à un moment ils ont vu que tout le monde les bouffait, ils se sont dit on va continuer quoi. Donc voilà, et puis ils cultivent leur jardin parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien survivre, et qu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants mourir de faim. Alors ils préfèrent avoir des carottes en espérant, en retournant des couches de terre, en retirant un peu de terre, en essayant avec des... Mais quelque part, c'est... Sur place, on s'est dit, est-ce que c'est quoi? C'est un déni? C'est de l'hypocrisie? C'est vraiment un gros mensonge? C'est quoi? Et puis peut-être, peut-être c'est aussi une tentative de révolte, une tentative d'essayer quelque chose au moins. Mais bon, c'est avec des... Pour certains, là, pour le coup, dans cette ferme bio, c'est avec des petits moyens. Donc voilà, ils font comme ils peuvent, mais ils essaient de s'en sortir déjà.
Toirie et Tepa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux natifs de Tahiti. Qu'est-ce que ça représente de jouer quelque part l'histoire de votre pays? Est-ce que vos familles vous avaient déjà parlé de ça?
Je vais laisser d'abord Toirie répondre, comme il parle très peu dans cette communication autour des champignons de Paris.
Alors, Toirie.
Alors, moi, non, franchement, je savais de cette histoire que ce qu'on a bien voulu me raconter à l'école ou un petit peu... dans mon entourage, mais même dans ma famille, on n'en parle pas. C'est un sujet aujourd'hui encore qui est, je dirais pas tabou, mais bon, en tout cas, on n'en parle pas, quoi. C'est pas dans les manuels scolaires, ça fait pas partie de notre programme. Donc moi, honnêtement, je n'en connaissais rien, sinon très peu, avant de jouer dans la pièce.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous, du coup, de mettre ça en lumière dans votre pays?
Eh bien, c'est important. J'ai l'impression qu'on fait, si je vais m'exprimer de manière simple, j'ai l'impression qu'on fait une bonne action, en tout cas, qu'on révèle un petit peu, qu'on apprend aux gens, aux jeunes à Tahiti, parce qu'on fait énormément de scolaires et on leur apprend quelque chose qu'ils ne savent pas, pour la plupart. Voilà.
T'es pas...
Moi, j'étais au courant qu'il y avait eu des essais. Hein. Je suis plus âgé que Toari, j'ai 10 ans de plus. Et moi, j'étais au courant, mon papy m'en parlait, et il a travaillé au CEP. Et avec cette pièce, j'ai appris plus de détails, on va dire. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait eu 193 tirs. Je pensais qu'il en avait eu allez, bon, une trentaine, mais pas 193. Et à travers cette pièce, eh bien, je rejoue en quelque sorte l'histoire de mon papy, parce que mon papy était plongeur-soudeur, et dans la pièce, je suis plongeur. Et j'incarne un personnage qui est plongeur, qui est Rémi. Voilà, et quand je joue, chaque soir, ben, je joue pour mon papy.
C'est un bel hommage.
Ouais. Oui, c'est un bel... Ben, en fait, quelque part, le fait de jouer dans cette pièce, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, je porte un message. C'est un travail de mémoire aussi, faut pas oublier. Voilà.
Oui, c'est important, Corentin, cette histoire de mémoire. Parce qu'on apprend énormément de choses, même si on sait évidemment que Tchernobyl a existé. Quand on vient voir votre spectacle, on n'est pas conscient que ça continue à habiter au quotidien les gens qui sont toujours là-bas.
Bah oui, c'est vrai, mais c'est le nucléaire, c'est les dégâts causés par le nucléaire, c'est pas 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est sur des échelles, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'années. Rien que dire la phrase, c'est le vertige, quoi. Donc, non, on peut pas oublier. Et on est tous directement concernés. Et puis, ça pose les questions, évidemment, de ce qu'on fait avec les déchets nucléaires aussi maintenant. Puisque, bon, là, pour le coup, c'est un accident. Mais en fait, des accidents, on l'a vu, justement, encore avec Fukushima, il y en a eu d'autres. Et puis, il y a en fait des mini-accidents. Il y en a tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait avec les centrales? Est-ce qu'on continue? Les déchets, on ne sait toujours pas quoi en faire. Alors, on peut oublier cette catastrophe de Tchernobyl, mais les déchets, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Et personne n'a de solution. Et donc là, on continue, la locomotive est lancée, et puis on essaie de construire les rails devant, mais quoi? Donc, non, on ne peut pas oublier.
Merci à vous quatre d'être venus nous parler de ces deux magnifiques spectacles. Donc retrouvez Les Champignons de Paris au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné à 21h35 et L'Herbe de l'Oubli jusqu'au 26 juillet à 17h au Théâtre des Dons. Je vous propose de nous évader un peu avec quelques mots d'Edouard Glissant.
Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes. Présentée par Raphaël Laureau. En collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
Printemps 2008. 50 ans après l'anthologie de la poésie nouvelle de Jean Paris, dans laquelle leurs poèmes se faisaient écho, Édouard Glissant revient sur ses années de jeunesse parisienne et évoque ses amis les poètes français, très éloignés de ses préoccupations politiques et militantes, mais avec qui il partageait une véritable amitié. Parmi eux, Maurice Roche, compositeur, écrivain, fondateur du seul et unique numéro de la revue Éléments et compagnon de voyage en mobylette. Roger Giroux, poète et traducteur, beau-frère et ami des dialogues les plus poétiques, mais aussi Jacques Charpier, résistant et poète des mythologies du vent.
Mes amis, les poètes français, qui étaient des amis très chers, très très chers, Maurice Roche, Jacques Charpier, Roger Giroux, qui, je pense, sont de grands poètes, mais qui sont méconnus, jusqu'ici méconnus, et il faudrait faire quelque chose. Ils n'auraient peut-être pas compris pourquoi je militais pour l'avancée, sinon l'émancipation des pays antillais. Parce que j'étais avec eux sur un plan de telle égalité que ça leur aurait paru bizarre. Et bon, je n'ai jamais éprouvé le besoin de leur dire, tu sais, dans mon pays, il y a des problèmes, etc. etc.
Vous n'en parliez pas?
Non. Parce que je trouvais que ce n'était pas nécessaire. Et que ce que nous partagions, ça allait dans le même sens, sans qu'on ait à le dire. D'ailleurs, avec ces amis-là, nous ne parlions jamais littérature. Jamais. On parlait de toutes sortes de choses. On ne parlait pas d'actualité, mais on ne parlait pas littérature. On parlait toujours autour de la littérature. Autour de la poésie. Parce que déjà j'avais une certaine tendance à la démesure dans ma poésie, et ce qui n'était pas leur cas. Et donc, on se faisait des petites observations sur ça. Mais on ne parlait pas de poésie, on ne parlait pas de littérature. mais il y avait vraiment une... nous partagions la même indifférence pour les carrières littéraires. Absolument la même indifférence. La même indifférence pour les soucis de se faire connaître ou de se faire... Et ils m'ont tous laissé cela en charge. Malheureusement, ils sont tous morts. Je me fais l'impression d'un survivant. Mais ils m'ont laissé cela.
Marie-Cécile, bonjour.
Bonjour Savannah.
Alors pour notre dernière émission Grand Large avant le débat de demain, vous êtes partie à la rencontre de Jacques Gendron, un très vieil habitué de la chapelle du Verbe incarné.
Tout à fait. Déjà la dernière, donc j'ai rencontré pour une petite partie émotion quand même, Jacques Gendron qui a vécu dans les Outre-mer et rentré en Hexagone en 97 et donc suit la chapelle du Verbe incarné depuis son ouverture. Ça lui rappelle sa vie dans les Outre-mer, ça lui apprend aussi d'autres choses et donc il va nous expliquer tout ça.
Je suis Jacques Gendron, je suis en retraite ici depuis le 1er janvier 1994, ça commence à faire un mail, et surtout on sent qu'on a plus de 20 ans. J'étais marqué moi par l'Outre-mer, parce que j'ai travaillé 2 ans et demi en Guadeloupe avant. Je suis rentré en métropole et puis je suis reparti après, 8 ans et demi à La Réunion. J'étais directeur à la préfecture. C'est vraiment un autre mode de vie, une autre... Bon, c'est pas sans problème, hein. Mais c'est autre chose, quoi. Ici, on vit un petit peu ça l'été, parce qu'il fait beau, les gens circulent, sont là. Mais là-bas, c'est presque toute l'année, quoi. Et au Thomas, c'est mes spectacles préférés. C'est comme il y en a 1500, alors, vous savez, c'est de folie. Comment choisir là-dedans? Alors, moi, j'ai une technique. D'abord, le Thomas. Parce que là, je connais, je suis bien, je suis un peu chez moi. Et puis, je prends les théâtres autour de moi et... Les théâtres d'Avignon, ils sont là toute l'année. Donc c'est intéressant d'aller les voir pendant le festival. Bon, on ne peut pas dire qu'on est satisfait partout. Même ici, je ne suis pas toujours très satisfait. Mais il y a quand même une référence qui fait que, en principe, c'est bon. J'en ai vu installer. Celui qui parle des champignons de Paris. C'est le premier que j'ai été voir cette année. Je voulais absolument le voir. Et ben, tout ce qu'on dit là-dedans, on ne l'a jamais dit avant. Alors, j'ai donc appris quelque chose que je ne connaissais pas. Il y a plusieurs troupes de Nouvelle-Calédonie cette année. Ben, j'ai jamais été là-bas. Ça me permet de voir un peu ces gens-là, voir que leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils disent, c'est autre chose. C'est un peu une évasion. Je trouve que c'est un dommage que les gens ne bougent pas. Il y a tellement à apprendre des autres, des pays qu'on a l'occasion de connaître, de fréquenter. C'est enrichissant, pas possible. Ça maintient la tête en bon état. Mais au lieu de se vivre de tous les petits problèmes de la vie qui sont désagréables, autant profiter des bons. Ce qui m'est arrivé, je ne sais plus en quelle année, mais j'avais connu à La Réunion une troupe de théâtre, et un jour, je les ai vus ici. Alors, ça m'avait fait plaisir. Pour les années qui viennent, au Thomas, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. L'ambiance me plaît, ils sont tellement très très gentils, je les aime beaucoup. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, qu'ils vont faire venir d'autres troupes. Ils se débrouillent bien pour trouver les troupes d'outre-mer, il faut aller les chercher.
Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
Bonjour Greg Germain.
Bonjour Savannah.
Alors vous venez nous insuffler un vent de poésie en live pour notre dernière émission de cette édition avant le débat de demain sur la question de la mémoire du spectacle vivant.
Oui, mais juste avant je souhaiterais dire un mot sur Jacques Gendron. Je trouve étonnant que ce vieux monsieur, je trouve étonnant et je trouve réconfortant et peut-être aussi plein d'espoir que ce vieux monsieur dise encore aujourd'hui qu'il y a tant de choses à apprendre des autres. Et je regrette évidemment que les gens du ministère de la Culture, par exemple, ne trouvent pas que c'est aussi intéressant. Et c'est vraiment un reproche que je peux adresser et que j'adresserai évidemment jusqu'à mon dernier souffle à ces gens qui sont censés dispenser la culture. Pour en revenir à notre voyage poétique, je vais aujourd'hui vous lire une lettre que Patrick Chamoiseau, qui était un grand ami d'Édouard Glissant, comme je me flatte de l'avoir été aussi, lui a écrit après sa mort. Alors, cette lettre est une espèce de plein chant. Je vous laisserai trouver ce que signifie un plein chant. C'est presque liturgique, presque religieux, dans la mesure où c'est une ode à Édouard Glissant, mais aussi à l'œuvre d'Édouard. Sa première œuvre, celle qu'il a rendue le plus connue, qui est La Lézarde, qu'il a, avec ce roman, il a eu le prix Renaudot en 1958. Et dans cette lettre de Chamoiseau, que je ne vous lirai pas tout en entier parce qu'elle est un petit peu longue, y a tout Glissant, tout ce qu'il a écrit, et ceux qui connaissent bien l'œuvre d'Édouard, ou même certains livres d'Édouard, reconnaîtront de quoi parle Chamoiseau. Mais c'est une poésie extraordinaire. Cher maître, la lézarde du pays réel a traversé la contrée des rocailles, notre vieille vallée des larmes, notre allée des soupirs. Elle a connu sans rémission le delta des ravages, l'océan des douleurs, puis de l'autre connaissance du pays des sans-chapeaux. Mais la lézarde du pays rêvé n'a jamais quitté les mornes. Elle n'a jamais cessé d'arpenter les hauteurs où l'ombre et la lumière sont d'une même intention, et jamais déserté la vigilance des cimes. C'est par cette exigence qu'il lui a été donné d'irriguer le pays, en fond d'oc et racines, de fréquenter le long secret des acacias, l'éternité des très vieux acomas, la soif de la rocaille du côté des salines, et cette angoisse qui sert d'humus au bois sans chêne des nègres marrons. Et c'est au vif de cette topographie devenue éminente, ces cannes à sucre et ces vieilles cases, la ruine des grandes usines, squelettes d'habitation, qu'elle a tramé une claire vision du monde, qu'elle a ramené le monde à l'alchimie du lieu, qu'elle a versé le monde aux circulations souterraines de l'igname et des bleutés de la Dachine, si bien que pas une seule poussière de ce petit pays, pas une maille de ses misères ou de ses tragédies n'a pu nourrir le moindre enfermement, un quelconque renoncement, toujours l'espérance la plus haute, toujours le soleil, même fragile, de la plus haute conscience. Et c'est parce que son eau était de poésie, ses doumes et ses bassins de poésie toute pure, qu'elle a su faire vision, dégager des futurs, confier aux pupilles en alerte le scintillement des avenirs. La lézarde a aussi enfanté des poètes, ta distinguée poète. De Sainte-Marie à Lamantin, des Salines au Diamant, elle a laissé des souvenirs et toutes ses traces dont la fragilité forge la résistance et dont la brièveté éternise la durée. Je vois l'émotion dans les hauteurs de Bézodin, là où ta case originelle a disparu. Je vois cet amour du Lamantin au cœur des flèches violettes, dans les panaches maintenant invisibles des longues cheminées. Je vois cette écoute attentive des usines, jadis féroces, avalées par la rouille. Je vois aussi la plage ardente qu'il fallait chaque matin déchiffrer, et la confession du sable noir qui filtrait des volcans oubliés pour renverser la blancheur des coraux. Je vois les bains avec la chaussure bleue, et le punch à préserver des mouches, le carême qui asphyxie le vieux ventilateur, le poisson rouge à écailler pour le bon courbouillon, et tes colères, tes mauvaises fois, et l'amitié, et tes indignations, et encore tes colères, et toujours l'amitié. Et surtout cette tendresse exigeante, flagellante et toute pleine d'oxygène, qui forçait le gibier à conserver le cap, sans une flatterie, ni un seul compliment, mais juste avec la manière du commandeur sublime. Maintenant, cher maître, j'ai l'impression qu'un acoma de 100 000 ans s'est effondré, qu'à Sainte-Marie, qu'au Lamantin et qu'ici au Diamant, et même dans chaque parcelle de cette fixe tragédie qu'est le pays réel, Un pan de paysage s'est laissé envahir par cette brume des déroutes que craignent les pêcheurs et qu'il y a une solitude irrémédiable qui accable le guerrier. C'est la grâce des poètes que de ne jamais mourir. Cher maître, j'aimerais pouvoir chanter et me trouver une allégresse et rire encore de la vallée des larmes et ramener le comique de l'allée des soupirs. Mais il est quand même difficile d'envisager que plus personne ne te verra filer un pas de béguine à la manière ancienne ou manier le citron et le sucre dans les 50 degrés de la fraternité. Là se trouve la grande peine. Là se tient la déveine la plus folle, celle qui n'a pas de paupières et qui nous fixe maintenant. Nous n'avons que la ressource d'en faire une beauté. Et dès lors, j'imagine la lézarde. J'imagine la lézarde. Elle dévale sans quitter les hauteurs. Je vois ses eaux refléter les magnolias de Faulkner, la rose de porcelaine qui jamais ne se brise, le sourire de Paul Niger au-dessus de l'avion. Je vois Prisca, Tikilik, Apocal, l'impatience coléreuse de Fanon, l'annonciation considérable que signifie Césaire, ces Indes inattendues qui surprirent Saint John Perse et le jasmin de Nejma parmi les acacias et le coucher de soleil sur la femme du diamant. Je vois Carthage et Carthagène, Vifredolam dans sa jungle verticale, et Mata, Cardenas et Segui, et ce bon Ségalène qui déchiffre l'errance. Je vois même Mycéa dont aucun mot n'a su nous rendre compte. Et si le vent souffle et que l'arbre du voyageur commence à me parler, cet arbre que tu as ressuscité lors du dernier cyclone, s'il te nomme, on me l'a dit, âme vivante du monde, et que tout un peuple de fromagers en assume l'écho, je leur dirai qu'il est probable que tu refuses ce signe, ou cet insigne, mais que moi, pour ma part, j'ai donné révérence depuis le chant du pipiri, et que depuis je n'ai jamais, jamais cessé, que la révérence a été affectueuse, et que maintenant, comme pour les vents qui viennent l'affection, toute l'affection restera révérente. Patrick Chamoiseau.
Merci Greg. On retrouve Nathalie Lelay.
Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelay du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Savannah. Alors, je reviens du festival Zigzag d'Aix-en-Provence, comme je vous le disais hier, où j'ai assisté à la première soirée de ce festival qui a été vraiment chaleureuse et puis ovationnée par le public, puisqu'il y avait en tête d'affiche le Massilia Sound System. Donc je me suis entretenue avec l'équipe de La Fonderie, qui est l'équipe organisatrice de ce festival depuis plus de 20 ans et qui œuvre surtout à la diffusion des musiques actuelles et des musiques du monde à Aix-en-Provence. Donc voilà, là je me suis entretenue avec Pascal Sévrac dans l'enregistrement qui suit.
Bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Comme je vous l'ai annoncé hier, je suis sur la 21e édition du Zigzag Festival à Aix-en-Provence avec Pascal Sévrac, qui est directrice de production de ce festival et qui est aussi membre et fondatrice du COFIS dont nous avons déjà parlé. Donc le Zigzag Festival à Aix-en-Provence, qui est un festival de musique du monde, un festival éco-citoyen, éco-responsable. Donc je suis venue poser cette question à Pascal. En quoi ce festival est éco-citoyen, éco-responsable ici au Jazz de Bouffant à Aix-en-Provence?
Bonsoir Nathalie, merci. Donc déjà la première chose, c'est notre âme et notre colonne vertébrale, c'est l'accès à la culture pour tous. Donc le festival, il est gratuit. Ce qui fait qu'il permet à tous les gens du quartier et d'ailleurs de venir voir, découvrir, entendre des groupes de notoriété aux côtés de groupes découvertes. Parce qu'on a aussi une vocation, c'est d'accompagner les artistes émergents. Donc on a une scène dédiée à ça sur le festival. Ça fait aussi partie de nos missions éco-citoyennes. Ensuite, on s'engage sur des valeurs éco-responsables comme au niveau technique, l'utilisation des éclairages LED. Au niveau du catering, de travailler avec les producteurs du coin, donc circuit court, les produits, les fruits et légumes de Provence, les bons vins de chez nous, puisqu'on a de très bons produits, surtout au mois de juillet. Ensuite, on est aussi sur les gobelets réutilisables, les toilettes sèches, enfin des choses que tout le monde met en place de plus en plus. Et on a pris aussi le parti cette année de supprimer le Coca-Cola de notre festival et de vendre que des jus de fruits fabriqués en Provence. Ce sont des jus de fruits qu'on achète à Fort-Calquier. Et c'est un CAT, un centre de travail des jeunes handicapés, qui fabrique ces jus de fruits avec des jus de Provence. Voilà. Donc, on essaye petit à petit d'amener les spectateurs, la population en tout cas, vers d'autres valeurs et d'autres fonctionnements et d'autres façons de consommer la culture.
J'ai entendu parler d'une green team ou en tout cas tout un entourage autour du public.
Oui, tout à fait. On a beaucoup de bénévoles sur le festival qui reviennent chaque année et le groupe s'agrandit. Et parmi ces équipes-là, on a une green team. Donc c'est en fait un groupe qui, pendant toute la durée du festival, explique aux gens, aux spectateurs, pourquoi on met telle chose dans telle poubelle et pas dans telle autre, comment on peut faire en sorte que le site soit propre et qu'on évolue tous dans un univers qui est joli, respecté, ne pas utiliser des bouteilles en verre, donc ils leur donnent des gobelets. Enfin, toute une démarche vraiment de sensibilisation à la fois à l'environnement dans lequel on vit, puisque le site, on est dans un parc qui est magnifique, donc c'est quand même dommage de marcher sur des gobelets au sol. Donc on explique aux gens qu'il faut respecter ce site, qu'il faut faire en sorte qu'il soit joli et qu'il soit agréable pour le plus grand plaisir de tous. Et puis de faire attention dans quelle poubelle on met ses déchets, parce que le fait de trier et de recycler, ça génère des emplois, c'est aussi des valeurs qu'il faut défendre. Et à travers nos spectateurs, on est sur une sensibilisation d'un public qui est très large et d'une façon très ludique, en fait. Ouais,
c'est ça aussi, le public du Zigzag Festival, c'est un public hyper divers, en fait.
Oui, nous, on touche, du fait de la gratuité, on touche vraiment des gens qui viennent jamais, qui font jamais le pas de rentrer dans une salle de concert ou dans un théâtre. Donc, et des familles entières, donc c'est intergénérationnel, des jeunes, des vieux, tout le monde, des parents, les grands-parents. Et du coup, c'est des valeurs, on peut transmettre des valeurs et on peut partager des moments sur toutes les valeurs qui sont importantes. Et je pense que les gens aiment beaucoup qu'on s'occupe d'eux.
Ouais, c'est bien ce que j'ai cru voir là ce soir. Merci en tout cas, Pascal, et puis une bonne continuation pour les deux jours qui suivent. À bientôt.
Merci Nathalie, à bientôt.
Voilà, c'était le son avec Pascal Sévrac. Je voulais juste annoncer que donc le Zigzag Festival se poursuit ce soir, vendredi 20 et samedi 21, avec ce soir Dara G Family, notamment Chila Makeovers, et samedi 21, Fatoumata Diawara en tête d'affiche. Le site ouvre à 18h avec des tas d'animations pour les enfants, des graffeurs qui travaillent in situ, et puis des tas de petites cabanes sympathique où manger et boire des produits locaux. Voilà. Voilà, je termine en vous souhaitant une bonne fin de festival et merci à tous pour ces bons moments passés ensemble, parce que je quitte Avignon à présent.
Merci, à bientôt. À bientôt. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin pour la dernière de Grand Large. Alors demain, vous retrouverez Estelle Laurentin autour d'un grand débat sur la question de la mémoire du spectacle vivant. Je vous remercie de nous avoir écoutés pendant tout ce off 2018 et évidemment, vous pouvez prolonger tous ces temps de partage et de rencontres sur le site verbeincarné.fr pour retrouver tous les podcasts de nos émissions. Vous pouvez vous rendre également sur Radio Grenouille à partir de 15h et sur Aligre FM à 19h sur 93.1. Merci à Marie-Cécile.
Merci à toi, Savannah. Merci à tout le monde.
Merci Nathalie, Louise, Greg, Estelle, toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant toute cette édition 2018. On vous retrouve demain pour un grand débat et l'année prochaine pour nos émissions Grand Large tout au long du festival.